Bon après-midi, je commence. J'ai commencé cette série de conférences avec le témoignage de Chen Shide sur la hausse extraordinaire des prix de grains à la fin de la dynastie Ming. Pendant ces dernières trois semaines, je vous ai fait un tour de la culture des prix, le coût de la vie et le marché des objets d'art. Aujourd'hui, je suis prêt à retourner à l'histoire effrayante qu'a racontée Chen Shide dans une conjonction où le prix du produit le plus essentiel, le grain, a monté à des hauteurs qu'on ne pouvait pas imaginer et que personne ne pouvait se permettre à payer. Je vous rappelle certains éléments mentionnés par Chen. Il se souvenait de son enfance dans les années 1570, quand, dit-il, et je cite, « les récoltes abondantes étaient universelles et le peuple profitait de la prospérité économique. Le prix d'un décalitre de grains ne dépassait pas 3 ou 4 centimes. Chaque famille avait le poisson et la viande comme elle veut. Les gens croyaient que cette prospérité serait éternelle. » Fin de citation. Son premier frottement à la famine fut en 1589. L'inondation massive de l'année précédente avait engouffré le pays et puis elle a été suivie par la sécheresse. À cette époque-là, écrit-il, si on avait mis de côté 100 litres de grain, on pouvait le vendre à 1,6 taël d'argent. Le prix des grains a monté en flèche et il est resté haut pendant des mois et des mois. Fin de citation. Ce n'est qu'en 1640 que les inondations et la famine sont revenues. Chen notait que le prix du grain monta graduellement d'un peu plus d'un taël à jusqu'à 2 taël l'hectolitre. Puis les inondations ont tourné en sécheresse et au début de l'année 1641, le prix sauta de 2 à 3 taël, nota-t-il. Après l'épidémie du printemps de 1642, les aliments étaient deux fois plus coûteux que l'année précédente. Le récit de Chen Shide sur la catastrophe nous montre la fascination choquée de ces gens du temps des Ming avec les extrémités que les prix de la nourriture pouvaient atteindre dans des circonstances extrêmes. Chen est loin d'être le seul auteur à décrire les difficultés à l'époque de l'effondrement de la dynastie et ce qui se passe avec les prix pendant une transition dynastique. Ye Mengzhu a fait le même. Ye provenait de Shanghai, située à 100 km au nord-est de Tongxiang, la sous-préfecture natale de Chen. Il a vu la transition en tant qu'adolescent, contrairement à Chen, qui était déjà un vieil homme à l'époque. Contrairement à Chen, il a écrit son récit rétrospectivement quelques décennies après, plutôt qu'au moment où les catastrophes se passaient. Les deux auteurs ont été attirés par des traits différents, néanmoins, les deux fixent leur attention sur les prix. Ye Mengzhu commence son récit en fixant le niveau de référence à des périodes antérieures. Contrairement à Chen, qui remonte au temps de Wanli, Ye fait remonter l'origine du déluge au débat de l'ère de Chongzhen. Pour lui, les prix étaient normaux jusqu'en 1632. Cette année-là, écrit Ye, et je cite, un décalitre de riz blanc coûtait 120 sapèques de cuivre, soit 10 centimes d'argent. Fin de citation. Comme il s'attendait que ses lecteurs ne soient pas frappés par ce prix, et comme il savait ce qu'il allait se passer plus tard, il interpose que les gens souffrent même à ce prix. Puis, écrit-il, et je cite, « le prix en pièces de cuivre d'un décalitre de riz oscillait à environ 100 sapèques. Puis, en 1638-1639, le prix en cuivre baissait chaque jour, tandis que le prix du riz en argent grimpa en flèche, et donc un décalitre de riz en pièces de cuivre coûtait 300 sapèques, mais en argent, il coûtait seulement 18 ou 19 centimes. Ceux qui le ressentaient étaient troublés par cet événement, mais ce n'était rien comparé aux événements du printemps de l'été 1642. Il en parle de la même famine décrite par Chen, et je cite, « Les prix en cuivre tomba au point où 1000 sapèques valaient seulement 40 centimes. » Ça indiquait que les prix déjà hauts étaient deux fois plus chers qu'ordinaire pour ceux qui doivent payer en cuivre. Et je cite encore, « Le prix d'un hectolitre de riz monta jusqu'à 5 TL en pièces d'argent, un peu plus de 12 000 sapèques de cuivre. » L'histoire de Yamangju effectivement répète celle de Chen Chi De. Il vivait dans la même région et ils ont souffert les effets de même catastrophe. Ces mémoires sont utiles car ils fournissent des échantillons de prix en nous rattachant des dates précises. Cependant, ils ne sont pas des prix normaux. Ce sont des prix exceptionnels, des prix tellement stupéfiants que les auteurs comme Yamangju et Chen Chide étaient tellement émus qu'ils les utiliseraient dans leurs ouvrages afin de dramatiser la crise des dernières années de la dynastie des Ming. Leurs comptes rendus appartiennent au temps quand ils ont été écrits et pourtant dans leurs impulses de noter les niveaux extrêmes que les prix pouvaient atteindre, ils partagent une longue tradition, celle d'enregistrer des prix exceptionnels en tant qu'instrument pour commémorer la souffrance à travers le temps. Fernand Braudel proposa comme première tâche dans la production d'une histoire complète du monde prémoderne, et je cite, une évaluation des limites du possible. C'est une esquisse de Wen Zhengming qui vous donne une idée de la vie idéale des paysans chinois. Alors, Braudel commence son ouvrage « Structure de la vie quotidienne » avec deux faits fondamentaux, la taille de la population et la disponibilité de la nourriture. Sur les deux fondements reste l'histoire des prix. Pour les historiens de l'Europe, l'idée même de détecter des longues durées aurait été inconcevable sans l'histoire des prix, particulièrement celle de la denrée la plus importante, le grain. L'obstacle principal de l'histoire des prix en Chine, avant le 18e siècle ou peut-être le 20e siècle, est l'absence de ce type de données. Les prix des grains devraient être rassemblés régulièrement sur les marchés locaux et ensuite reporté au gouvernement central à travers les Ming, mais ces données n'existent plus. Nous devons être plus créatifs si nous voulons produire des synthèses braudeliennes et établir les limites du possible dans le monde des Ming. Il y a des données sur les prix du grain, mais la plupart des données sont dans le format anormal que Chen Chide et Yamangju nous ont laissé. Le prix haut du grain pendant les famines. Nous sommes obligés de partir de ce genre de données, comme je vais vous montrer bientôt, pour accomplir la tâche que Braudel nous a donnée, établir les limites du possible à l'époque des Ming. Les prix des grains, qu'ils soient normaux ou extrêmes, reflètent la relation entre l'offre et la demande. Dans une économie stabile, cette relation est relativement constante. Les prix des grains dans une économie agraire montent et descendent en fonction de la saison. Ils sont plus bas juste après la récolte et plus hauts à la fin de ce cycle. bien que dans des conditions normales, cette fluctuation soit habituelle et prévisible. La famine a bouleversé cette relation. Quand la récolte échouait et la demande dépassait l'offre, le gouvernement des Ming savait que son rôle était d'intervenir et atténuer la crise. Les fonctionnaires locaux se faisaient premièrement en envoyant de la nourriture du grenier de l'État pour nourrir les affamés, et puis en intervenant dans les marchés locaux pour abaisser les prix, ou dans le langage officiel chinois, de pingjia, c'est-à-dire de stabiliser les prix ou plus précisément de ramener le prix au niveau normal. J'aimerais vous donner un autre exemple d'une sous-préfecture sur la côte sud-ouest. La sous-préfecture Haicheng était le port principal du commerce international sur la côte fujienne pendant les dernières années des Ming. Au début de juin 1615, le prix du grain monta inopinément au prix hébétant de 20 centimes le décalitre. Le magistrat Tao Rong y répondit en déboursant des prêts en grains du grenier de l'État. Ce prêt nourrit le peuple de sa sous-préfecture pour une semaine jusqu'à ce que les péniches de grains arrivent de Zhejiang. Relâcher du grain des réserves de l'État ou des réserves privées dans l'économie locale était généralement une réponse provisoire à une crise de subsistance. Les greniers n'étaient pas conçus pour nourrir les gens pendant une longue période de temps. Ils étaient là pour rétablir la confiance dans le marché local et pour stabiliser les prix afin d'encourager les marchands de grains d'apporter du grain commercial sur le marché local. C'est ce qu'il est arrivé en Haicheng. Dès le grain commercial arriva, le prix du grain revint au normal. L'aide dépendait donc de l'économie commerciale et non pas seulement de la stratégie agrarienne traditionnelle de stockage du grain. De l'autre part, sans entreposage, cette stratégie ne fonctionnait pas. Tao était chanceux d'avoir quelques grains disponibles, mais cela n'était pas le cas tout le temps. Quand la sous-préfecture de Haicheng traversait de nouveau une période de famine en 1630, les réserves locales ne purent pas répondre à la brusque augmentation de la demande. Selon une source locale, et je cite, « un décalitre de grains exigeait un prix de 20 centimes », les corps des affamés jonchaient les rues et les gens étaient réduits à manger les feuilles des arbres. Il a fallu une année entière pour que les prix reviennent au normal. Fin de citation. J'ai fait ce court récit de la famine à Haicheng pour vous montrer le type de données que j'ai utilisées pour reconstruire l'histoire des fluctuations des prix de la dynastie des Ming. La source locale dont je vous ai parlé est une source particulière, la monographie locale, Difangzhi. Cette publication quasi officielle d'informations sur la topographie, l'histoire et l'administration locale devait être élaborée et autant que possible publiée selon un cycle d'environ 60 ans. Toutes les sous-préfectures Ming ne produisaient pas une monographie officielle. C'est un projet éditorial et financier important qui produisait une publication de plusieurs volumes avec des centaines de pages. Avant la fin de la dynastie des Ming, néanmoins, la plupart des sous-préfectures ont réussi à en publier au moins un et quelques-unes, même trois éditions. La monographie est le dépositaire de la plupart des données sur les prix pendant la famine. Ce type de données, d'une période antérieure aux Ming, ne survit pas. C'est seulement après 1450 environ, en fait après 1500, que les données sur les prix surgissent avec régularité dans les monographies locales. Partiellement, ce profil temporel est l'effet de la croissance de l'historiographie de la monographie locale, et du déclin du taux en survie plus on remonte dans le temps. Mais c'est aussi l'effet de la commercialisation. Le grain a un prix seulement si les gens l'achètent. Et les gens ne peuvent pas l'acheter si le marché ne le fournit pas. La division du travail qui naissait à la campagne signifiait une dépendance croissante sur le marché pour survivre. Avant la mi-période de la dynastie des Ming, autant que 10% de la population mangeait du grain acheté plutôt que du grain cultivé. En d'autres mots, les prix du grain pendant les famines dépendaient des famines qui devenaient plus fréquentes, mais ils se basaient aussi sur l'existence de gens qui achètent du grain. Même par les historiens qui l'emploient, la monographie locale n'est pas connue comme source d'information sur les prix. Zhang Xuecheng, l'éminent historiographe du XVIIIe siècle, voyait l'absence de données sur les prix dans la monographie comme un défaut et conseillait les rédacteurs d'y inclure les prix du grain et des denrées. Personne ne suivit son conseil. Les prix de la nourriture étaient classés parmi les choses éphémères de la vie quotidienne, indignes d'être inclus dans les archives permanentes de la sous-préfecture. Quand les prix sont mentionnés dans les biographies, ils y sont inclus pour jouer le rôle rhétorique habituel, pour accentuer la situation désespérée de l'époque de la biographie. Même les biographies ne sont pas le lieu indiqué pour chercher les données sur les prix. J'ai trouvé de meilleures données dans le catalogue des anomalies, normalement relégué à une sous-section à la fin du livre, intitulée « Xiang Yi, des signes propices et des anomalies » ou « Xiang Zai, des désastres et des signes propices ». C'est ici que les rédacteurs mettaient les événements bizarres qui se passaient dans la sous-préfecture, datés et arrangés chronologiquement. Et c'est ici qu'on trouve, des fois, les prix du grain les plus élevés pendant la famine la plus sévère. Dans cet ordre d'idées, les rédacteurs de la monographie sont péniblement inégaux dans leur enregistrement des prix pendant les famines. La plupart du temps, le rédacteur décrit la situation avec une phrase générale comme « le prix du grain sauta, mi jia tangui », sans donner un prix exact. Par exemple, le rédacteur de l'édition 1551 de l'est de la sous-préfecture de Guangdong enregistre deux famines dans sa section de désastres, une fois en 1529 et une autre fois en 1544. Mais tout ce qu'il écrit est que le prix du grain monta brusquement, Mijia Tangyong, mais dans aucun des rapports, il n'indique pas le prix. Cette réticence peut être liée au son de la sévérité de la famine. Pour vous donner un autre exemple, cette fois-ci de la plaine de la Chine du Nord, les notes d'une monographie écrite en 1604 sur les années 1555 remarquent que, et je cite, « le prix du grain découpla et ceux qui sont morts de faim étaient nombreux ». Fin de citation. En un moment. 6 ans plus tard, on racontait qu'à cause des locustes, le prix du grain soit considérablement haut, da gui. Mais on ne donne pas de prix dans aucun des deux cas. C'est seulement au début de la grande famine de 1587, famine qui s'est répandue à travers plusieurs années et dont un désastre qu'on regardait comme un événement historique sans précédent, que la monographie commença à enregistrer les prix. Malgré l'irrégularité avec laquelle les prix de la famine sont rapportés, ils peuvent être regroupés dans des centaines, peut-être pas assez pour satisfaire un historien quantitatif, mais c'est tout ce que j'ai à ma disposition pour éclairer les limites du possible dans la Chine des Ming. Les historiens Ming prennent généralement 35 à 40 centimes d'argent comme le prix normal d'un che, c'est-à-dire un peu plus qu'un hectolitre, de riz ou de blé, c'est-à-dire un peu plus de 100 litres de grains ou le prix du millet, de l'orge, du sarrasin et d'autres grains coûte moins, normalement environ un quart moins, et des fois il était réduit jusqu'à une troisième moins. Les prix du cuivre étaient dans l'éventail de 25 vers 30 sapèques le décalitre ou 300 sapèques le hectolitre. Ces prix sont nos points de référence dans l'analyse des prix pendant la famine. Je veux signaler une seule distorsion dans mes données. Elle ignore les crises de subsistance plus faibles et nous notons seulement les cas les plus extrêmes. Par exemple, dans une édition du XVIe siècle de Lianu Zhuan, les biographies des femmes martyrisées, on trouve une référence vague qui décrit l'effet de la disette comme rendre en dos de grain en 5 champs, c'est-à-dire que le prix a doublé. Si c'est ce qu'il arrivait avec les prix de grain dans les conditions normales de la disette, les monographies ne le mentionnent jamais. Le doublement du prix ne valait pas la peine d'être mentionné. Les prix locaux devaient monter en flèche pour être mentionnés dans la monographie. J'aimerais vous montrer des graphiques, des données que j'ai rassemblées dans un sondage plus ou moins aléatoire de quelques centaines de monographies des époques des Ming et des Qing. Le premier graphique, l'incidence des rapports des prix pendant la famine, vous donne un profil temporal de la fréquence du reportage des prix pendant la famine dans les monographies locaux. Ce tableau nous indique les années des pires des famines et nous suggère leur intensité. Les pires années au XVIe siècle ont été de 1544 à 1545 et de 1586 à 1589. Au XVIIe siècle, une famine violente frappa le pays presque chaque année à partir de 1618, avec des points en 1620 et 1630, et avec l'apogée pendant les incroyables années de 1539 à 1542, continuant jusqu'en 1541, la dernière année pour laquelle j'ai rassemblé des données. Et, ça ne vous donne pas des prix, mais ça donne l'incidence des prix. Pour la graphique suivant, les prix du riz en taille d'argent pendant la famine, j'ai rassemblé toutes les données sur les prix du riz par décalitre en taille d'argent pendant la famine. Le prix normal d'un décalitre de riz était d'environ 3 ou 4 centimes. Ici, la chronologie est la même que ce qu'on vient de voir, des sommets plus petits au XVIe siècle, l'instabilité de prix vers la fin des années 1610, suivie par des hausses ahurissantes à partir de la fin des années 1630 jusqu'aux années 1650. Par ailleurs, le graphique nous montre le niveau auquel les prix du riz pouvaient monter. Le prix pendant la famine jusqu'aux années 1580 oscillait autour de 25 centimes, 6 fois le prix normal, c'est-à-dire 4 centimes. Dans la deuxième moitié de cette décennie, le prix monta jusqu'à un tel À la fin de l'époque Ming, il atteint 3 TL. Et de temps en temps, c'est plus que 3 TL, mais il n'a pas de significance statistique. Alors, le troisième graphique, le prix du riz en monnaie de cuivre pendant la famine, montre une trajectoire semblable. Le prix normal était de 25 à 30 sapek le décalitre. Le prix standard auquel le riz monta pendant la famine jusqu'aux années 1540 était de 100 centimes, 3 ou 4 fois plus que le prix normal. C'était une sorte de plafond pour les prix d'urgence. Dorénavant, le prix pendant les famines monta en nouveau niveau. Les prix enregistrés étaient régulièrement 160 ou 200 sapek. Dans les années 1580, la limite supérieure commençait à atteindre 1000 sapek. À la fin des années 1630, il atteignait 10 000. Apparemment, les prix en pièces de cuivre étaient plus sensibles à la demande que ceux en pièces d'argent, ce qui est logique parce que le cuivre était la monnaie avec laquelle la majorité des gens pauvres achetaient du riz. Jusqu'à la fin des années 1330, quand la demande poussa les prix en pièces de cuivre en dessus des prix en pièces d'argent. Cela suggère au moins que ceux qui vivaient dans l'économie du cuivre étaient encore plus vulnérables à cette crise des prix que ceux qui vivaient dans l'économie de l'argent. Une inscription sur un stèle en pierre dans un temple d'une sous-préfecture de la province de Shanxi date le nadir de cette crise à 1643, sur laquelle on a érigé ce texte sec. Un décalitre du riz ou du millet, 2,3 TL. Un décalitre de blé, 1 TL. Un décalitre d'orge, 1,4 TL. Un décalitre de sarrasin, 1,9 TL. Un décalitre de pois, 1,8 TL. Un décalitre de sang, un demi-tail, un décalitre de balle, 1,1 tail. Tous les prix, y inclus ceux de la balle, qui est sans valeur nutritive, avaient augmenté dans l'économie de l'argent, une zone où les pauvres n'espéraient pas pouvoir entrer. Il n'y avait rien sur ce marché qu'ils pouvaient se permettre d'acheter. Quelques historiens ont affirmé que le prix du grain a haussé pendant la dynastie des Ming et ils l'ont attribué à l'afflux d'argent venu de l'étranger. Je suis un peu sceptique. J'ai peur que cette conclusion soit basée sur un malentendu du mouvement anormal des prix pendant les dernières années de la dynastie. Les graphiques que je vous ai présentés semble soutenir l'idée d'une évaluation séculaire des prix. Mais on doit distinguer entre deux possibilités interprétatives. Une possibilité est que les prix en général augmentaient, que la tendance d'augmentation des prix pendant la famine s'appuyait en effet sur une tendance ascensionnelle générale. L'autre possibilité est que l'augmentation des prix de grains pendant les désastres reflète une intensification de la substance des crises et non pas une tendance implicite des prix. Et je pense que c'est difficile distinguer ces deux possibilités. Mais la bonne réponse implique probablement tous les deux. Il semble aussi que la réponse varie entre les deux monnaies. La limite supérieure des prix en argent pendant la famine reste raisonnablement stable, entre 15 et 20 centimes le décalitre, jusqu'à la seconde moitié des années 1620, quand il pousse bien au-delà des limites. Le graphique ne donne pas une indication claire d'une tendance séculaire avant la moitié des années 1620. La limite, prix supérieur, la limite supérieure des prix en monnaie de cuivre nous montre une tendance un peu différente. Stable à 100 sapèques le décalitre jusqu'à la troisième décennie du XVIe siècle, quand il monte en flèche jusqu'à 130 ou 105 sapèques, des fois plus tard dans le siècle, les prix extrêmes du riz en monnaie de cuivre montent jusqu'à 200 sapèques, suivis par une descente partielle. Après la fin de la 17e siècle, XVIe siècle, les prix en monnaie de cuivre montent plus tôt et plus vite que les prix en argent. Il est possible que les différentes trajectoires du cuivre et de l'argent pendant les dernières quatre décennies de la dynastie reflètent ces distorsions différentes de la monnaie, une combinaison du cuivre dénaturé et des réserves plus grandes en argent. Néanmoins, je soutiens toujours que ces influences sont secondaires. À mon avis, les prix pendant les désastres fluctuent en fonction de la sévérité des crises qui les ont engendrées. Pour expliquer ces prix, je tournerai vers l'histoire de l'environnement. Considérons d'abord les tendances du niveau des précipitations pendant la dynastie des Ming. Il y a eu des sécheresses pendant le XVe siècle, mais aucune n'a pas eu l'envergure de la sécheresse de 1544, une année de type El Niño. La sécheresse s'est emparée du royaume en provoquant la destruction massive des récoltes et en lançant les Ming dans la famine. Et on peut voir... la sécheresse, c'est un peu difficile de lire ce graphique parce que ça n'indique pas l'intensité, simplement l'existence de sécheresse ou d'inondation. Mais comme j'avais dit, la sécheresse la plus sévère, c'était dans les années 1544-1545. À Zhejiang, les lacs étaient complètement asséchés et se sont devenus des terres rouges. Le prix du grain monta en flèche. Quelconque pouvait se permettre un pinte de riz courait le risque d'être tué en rentrant chez lui pendant le soir. Les mendiants mouraient en très grand nombre. L'État a ouvert ses greniers, mais les réserves ne suffisaient pas et la livraison était trop lente. Beaucoup d'affamés mouraient dans la rue avant de pouvoir arriver au grenier et mouraient pendant qu'ils attendaient que les grains soient distribués. Après cela, l'époque des Ming est restée sèche. La sécheresse atteint son apogée trois fois. Premièrement, la terrible sécheresse des années 1585 à 89, puis la période de sécheresse de 1614 à 19, suivi par le désastre final, quand pendant les dernières sept années de la dynastie, le peuple était engouffré dans la pire sécheresse qu'ils avaient jamais connue. On lit une note succincte pour l'année 1641 dans la monographie de Shanghai, la sous-préfecture de Yemangzhou, qui dit, et je cite, « L'été, une sécheresse massive des locustes, le prix du millet monta en flèche, les cadavres des affamés étalés dans la rue, le prix du grain monta jusqu'à 40 centimes le décalitre. » Fin de citation. Les précipitations ne sont pas le seul facteur de l'environnement à ce temps. Ils sont... Les précipitations sont liées aussi aux températures. Comme le reste de la planète, les époques des Yuan et des Ming ont passé par la petite époque glaciaire, quand les températures étaient plus basses que jamais. La seule période chaleureuse en Chine a été au milieu du XVIe siècle. Le froid n'a pas été un des facteurs de l'hausse de prix en 1544. Mais en 1587 et 88, quand les jésuites, les lacs du delta de Yangtze ont gelé et les vents ont fait monter la glace dans les monceaux de 10 mètres. Quand le jésuite italien Matteo Ricci naviguait sur le Grand Canal vers le sud après sa première visite à Beijing pendant l'hiver de 1597-98, il découvrit que, et je cite, « Dès que l'hiver s'installe, les rivières au nord de la Chine gèlent tellement fort qu'on ne peut plus naviguer et le chariot peut passer au-dessus. » Fin de citation. Les températures sont restées froides jusqu'à la fin de la dynastie et sont tombées à des valeurs sans précédent à partir de 1629 à 1643. Il y avait aussi les épidémies. Elles nous montrent un profil chronologique qui ressemble à ce qu'on voit avec les anomalies des pluies. Si on laisse de côté les énormes épidémies de 1411, les trois pires épidémies de l'époque des Ming ont été celles qui coïncident aux famines de 1544, 1487 et 1639. Pour résumer ces données, j'ai identifié 9 abîme, et j'emploie le mot un peu archaïque en anglais, slough. Ce sont des phases de crise environnementale s'étendant sur plusieurs années qui ont frappé l'époque des Yuan et des Ming pendant ces 4 siècles. Les 4 dernières phases, qui coïncident à la période de nos données sur les pluies, ont été pendant la période de Jiajing, 2 fois pendant la période de Wanli et finalement dans la période de Chongzhen, l'empereur final de la dynastie Ming. La confirmation que celles-ci ont été les pires phases de la dynastie est celle des prix enregistrés dans les monographies pour commémorer la sévérité des famines. La logique de l'explication, je pense, est relativement simple. La pression principale sur les prix était la disette. Il n'y avait pas assez de nourriture. La concurrence pour acheter de la nourriture était intense et donc les prix ont monté. Si la disette était de courte durée, le régime des prix qui avait été en place avant le désastre reprenait après la faim. S'il y avait un facteur qui aura pu pousser les prix pendant la famine plus haut, avec choc désastre, il était peut-être un facteur plutôt psychologique, la mémoire des désastres précédents. Dans les décennies après 1588, il y en avait beaucoup de ces mémoires. Chaque famine devient un moment de la récapitulation des désastres précédents. C'est à cela qu'il faut les mesurer. Sur ces bases, je propose l'argument que le régime des prix de la Chine a subi un changement significatif pendant les années 1640. Même si après les prix ont baissé un peu, ils ne sont jamais revenus au niveau antérieur. Les prix en monnaie de cuivre le montrent bien. En revenant au graphique 3, bon, je n'ai pas ici à ce moment, mais le graphique des prix en cuivre, on peut remarquer que l'abîme Jiajing au milieu des années 1440 force à honorer le prix normal pendant une famine par à peu près 50%, un changement modeste. Le premier abîme Wanli dans les années 1580 n'a eu qu'un effet temporal. Il a fallu le deuxième abîme Wanli des années 1610 pour faire que les prix en monnaie de cuivre restent hauts à un niveau tout nouveau. Tout change avec l'abîme Chongzhen. Chen Shide ne va pas plus loin que 1642, il est peut-être mort peu après cette date, mais notre mémorialiste Shanghai Yemang Zhu dit que, bien au contraire des bons de prix pendant les bonnes années Ming, ce prix n'est pas revenu au normal. Et je cite, « D'ici avant, écrit-il sur les années qui suivent l'année 1642, le prix du riz resta autour de 2 ou 3 taels l'hectolitre. Pendant la troisième année de la, siècle, de la dynastie actuelle, c'est-à-dire 1646, un décalitre de grain coûtait presque 1000 sapèques en cuivre. Dans la quatrième année, un hectolitre de riz blanc coûtait 4 taels en argent. Dans le deuxième mois de l'année 1650, le riz blanc retourna à 1 taël l'hectolitre, mais dans le dixième mois, le prix de riz nouveau remonta à 2 taël. Au deuxième mois de l'année suivante, le riz blanc coûtait 3 taël. Au troisième mois, il coûte 3,5 taël. Au quatrième, 4 taël. Au dixième mois, il atteint le prix de presque 5 taël l'hectolitre. Fin de citation. Le prix du grain se stabilisera pendant les premières années des Qing, mais il était 2,5 fois plus haut qu'il avait été au début du XVIIe siècle. Les sécheresses, les épidémies et les famines à la fin de l'époque Ming ont poussé les gens dans un autre régime de prix. C'est pour ce motif que j'estime que ce changement survenu à l'époque de Chongzhen mérite le terme de révolution des prix. Cela marque la transition d'un régime de prix où 10 litres de riz coûtaient 4 centimes à un autre régime dans lequel la même quantité de riz coûtait 10 centimes. Une augmentation de 4 à 10 peut sembler comme infime, mais le grain était la denrée la plus importante dans la période tardive de l'économie impériale. Le doublement et demi du prix de grain forçait une révision énorme du régime de prix à travers toute l'économie. Contrairement à la révolution presque contemporaine des prix en Europe, la révolution des prix de la période Chongzhen ne peut pas être expliquée seulement en termes monétaires. La période moyenne des Ming a éprouvé une transition significative de l'économie du cuivre à celle de l'argent, en arrivant à ce qu'on pourrait appeler, la première révolution des prix Ming. L'augmentation de l'économie de l'argent a peut-être compromis la capacité de l'économie du cuivre de nourrir les gens quand la subsistance est menacée. Néanmoins, tandis que la flux d'argent dans l'économie européenne au XVIe siècle aurait peut-être y provoqué des changements, l'économie de l'argent des Ming était trop grande pour être déboussolée par ce changement de l'offre de monnaie d'argent et trop dépendante de la production agricole pour être bien isolée contre l'effondrement environnemental qui a frappé les Ming pendant ces dernières années. Les augmentations des prix de l'ère de Chongzhen n'ont pas forcé une transformation fondamentale dans la structure de l'économie. L'économie de l'échange, lubrifiée par l'argent, était déjà en place. Si les augmentations des prix étaient révolutionnaires, c'était dans un sens social. Les gens n'avaient jamais payé ces prix et chaque augmentation apportait des nouveaux déclencheurs des prix. La famine, l'exode en masse, le cannibalisme, le banditisme, la révolte et finalement l'effondrement de la dynastie en 1644. Personne ne l'avait anticipé. Seulement, pour cette raison, il serait imprudent de minimaliser la série complexe des événements et attribuer aux sécheresses et aux pluies l'effondrement des Ming. Néanmoins, l'incursion de l'histoire des pluies des Ming m'a mené à regarder 1644 d'une manière plus matérialiste que la conception à la mode. La conception conventionnelle sur l'effondrement de la dynastie mélange le désordre administratif, l'effondrement fiscal, les révoltes des paysans et l'insurrection des tribus de Jurchen au nord de la Grande Muraille pour créer l'État manchou. Les loyalistes Ming ont donné à cette conjoncture malheureuse une perspective morale qui explique l'effondrement de la dynastie comme le résultat d'une série d'échecs moraux, une tournure subjective dans la philosophie, le déclin de la conscience éthique, la quête excessive du plaisir, le retrait dans des préoccupations esthétiques. Li Hua et son groupe de collectionneurs d'art, dont j'ai parlé la dernière semaine, ne font bonne figure sous cet examen rigoureux. Les intellectuels qui ont vécu pendant l'effondrement des Ming avaient leur raison de penser en cette manière. Ils voulaient se blâmer et assurer la responsabilité d'avoir échoué à sauver la dynastie. Ils blâment aussi le développement du commerce, car ils croyaient que les lieux où les gens n'ont pas besoin de marchands étaient les lieux où, même pendant les mauvaises années, on ne meurt pas de faim, et considèrent qu'on devrait revenir à ce type d'ordre social. Dans une perspective plus matérialiste, ce dilemme moral ne révèle qu'une petite partie de l'image d'ensemble. En regardant l'effondrement de la dynastie du point de vue de prix, on remarque l'échec de la production alimentaire sur une échelle qui dépasse la capacité de l'État ou du marché de corriger. Un échec qui se manifeste à travers la révolution des prix. Pour être juste avec ceux qui ont intellectualisé l'effondrement de la dynastie comme l'écroulement des valeurs morales plutôt que des étroites valeurs économiques, il y a eu des périodes au début de la dynastie quand les gens n'avaient pas besoin de marchands. Le modèle économique promu au début par les Ming était une économie de subsistance. Les marchands envoyaient des biens en gros dans les zones où ils manquaient, mais la plupart des gens, paysans en majorité, produisaient presque tout dont ils avaient besoin. Quand ils faisaient des échanges, c'était à une petite échelle par des interactions locales face à face. C'était, comme j'ai déjà mentionné, une économie dans laquelle la plupart des transactions étaient menées dans la monnaie de cuivre. Avant la fin du 15e siècle, grâce à la commercialisation et la croissance des villes, l'économie n'opérait plus de la même façon. L'économie du cuivre opérait toujours, mais elle le faisait dans une structure définie par l'économie de l'argent. Pour cette raison, je considère l'ascendance de l'économie de l'argent comme la première révolution des prix et le saut des prix sous Chongzhen comme la deuxième. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, alors le transfert massif d'argent du Nouveau Monde à travers l'océan Pacifique vers la Chine, commencé dans les années 1570, doit être perçu non pas comme une force qui a révolutionné l'économie des Ming, mais plutôt comme un facteur créé par l'ascendance antérieure de l'économie de l'argent. À la place de déstabiliser l'économie des Ming, l'influx d'argent n'a fait que confirmer et renforcer ce qui s'était déjà passé. L'augmentation de l'offre d'argent a peut-être fait monter les prix à des grandes hauteurs vers la fin de Ming, mais je suis sceptique en ce qui concerne l'ampleur de cet effet. Je ne crois pas que l'offre d'argent soit responsable pour la révolution des prix Chongzhen. La culpabilité appartient à la crise de subsistance déclenchée par la tombée des températures à partir de 1629 et la sécheresse prolongée commençant en 1637. Les contraintes de ce régime agrarien limitait sa capacité de faire face aux crises de l'environnement. Quand les récoltes échouaient misérablement, presque toutes échouaient. En termes politiques, le résultat de l'effondrement de Chongzhen fut l'invasion externe et la création d'un régime d'occupation. En termes économiques, le résultat fut la création d'un nouveau régime de prix qui a changé les paramètres de la recherche et probablement même la relation de la Chine avec l'économie globale. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci.